Valle Sufi. Radio Sufi, Jacques Ellul,
Jacques Chancel.
Je veux dire tout d'abord que nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Bordeaux, aimablement accueillis par nos amis, nos confrères de FR3. Mon invité, Jacques Ellul. Jacques Ellul, vous êtes né à Bordeaux, vous vivez à Bordeaux, vous êtes professeur à l'université de Bordeaux. Alors, quelle force vous tient à cette terre? Est-ce la nécessité de s'abreuver à la bonne source?
Absolument pas. Lorsque j'ai eu un choix à faire, en 1940, j'étais professeur à Strasbourg replié et j'ai été révoqué. Nous nous sommes demandé où nous pourrions revenir ou venir. Et au fond, spontanément, ma femme et moi, nous avons pensé qu'on revenait à Bordeaux pour une seule raison, c'est que nous avions nos amis.
Ellul, c'est un nom qui vient d'où? Il a une sonorité bizarre.
Tout à fait. C'est un nom maltais. C'est un nom soit arabe, soit israélite. Ellul, d'ailleurs, c'est le nom d'un mois hébreu.
Vous avez essayé de suivre l'itinéraire du nom, de voir d'où tout cela venait?
Oui. La famille a quitté l'île de Malte à la fin du XVIIe siècle et est venue s'installer à Trieste.
Alors, Jacques Ellul, vous avez accumulé les diplômes, vous êtes docteur en droit, vous êtes agrégé de l'histoire du droit. Et alors, je voudrais savoir un peu quelle route vous avez pu faire, parce que comment va-t-on lorsqu'on vient du droit à la philosophie? J'ai l'impression que vous avez pris quand même quelque chose de buissonnier, non? C'est un peu de vagabondage.
Oui, je suis pris peu philosophe. Dans la mesure...
Vous êtes pris pour philosophe, quand même.
Voilà, je suis pris pour philosophe, mais je suis d'une part, si l'on veut, un peu théologien, et j'essaie de réfléchir sur la vie de l'homme dans le monde où nous vivons. Moi, les philosophes me laissent froid parce qu'ils me parlent toujours, semble-t-il, d'un homme éternel que je ne connais pas, et de vérités éternelles que je ne connais pas non plus. D'où je suis très loin des philosophes, sauf de gens comme Nietzsche, par exemple, parce que lui, alors, ça rentre dans le vécu, mais j'étais étudiant et que l'on faisait de la philo, c'était pas ça du tout. Donc, je ne suis pas philosophe.
Ça, vous vous reconnaissez comment? Parce que vous avez publié une trentaine d'ouvrages sur l'histoire, sur la sociologie, sur la théologie. Bon, je serais tenté de dire même sur l'écologie, parce que vous étiez écologiste avant que beaucoup d'autres le soient. Je me demande quelle est votre préoccupation essentielle.
Ma préoccupation essentielle, c'est très simple. Comment vivre dans le monde où nous sommes?
D'abord, est-ce possible d'y vivre?
Évidemment, il faut essayer de le connaître. Alors, comme j'étais un intellectuel, de le comprendre d'abord. Et il m'est arrivé un événement auquel je ne m'attendais pas. J'ai été converti, je peux dire que je suis devenu chrétien. Je ne m'y attendais pas dans ma jeunesse parce que mon orientation était tout à fait vers les problèmes politiques, sociaux, économiques. Et puis, j'ai essayé de vivre les deux tendances qui se partagent ma personne et ma pensée, de les concilier non pas artificiellement mais dans le vécu. C'est ça qui explique les deux orientations. Mais tout à l'heure, vous me posiez la question de mes études de droit. C'est très simple. J'ai fait des études de droit, non pas parce que je les aimais, mais parce que mon père, un jour, m'a dit, bon, eh bien, quand j'ai eu mon baccalauréat, tu fais tes études de droit. À cette époque, on ne contestait pas ce que le père disait. Quand j'ai fait mes études de droit, ça m'intéressait pas.
Ce que vous avez l'air de dire, aujourd'hui, on conteste tout, l'université, le père, la mère,
pas
le frère, la sœur.
C'est bien évident que mes enfants n'ont pas fait ce que j'aurais eu envie qu'ils fassent. C'est comme ça, ça c'est... Et puis, je ne me plains pas. Mais dans le droit, comme j'étais de tendance, ça c'est curieux, assez anarchisante quand j'avais 18 ans, j'ai eu une pensée très pernicieuse. Je me suis dit, au fond, je vais choisir dans le droit ce qui réellement n'a aucune espèce de signification, le droit romain. Et quand j'ai pensé devenir professeur de droit romain, c'était avec cette ironie qui aurait été assise à sa place en 68, je vais être payé par la société pour enseigner quelque chose qui ne sert à rien, qui ne signifie rien et qui ne permet rien.
Et qui vous permet de faire le reste. C'est,
voilà.
C'est une forme de provocation.
Voilà, ça m'a permis de faire tout le reste.
Alors vous parliez de conversion à l'instant, Jacques Ellul. Vous venez de l'athéisme ou vous venez d'une autre religion?
Eh bien, ma famille était assez singulière, c'est-à-dire que mon père était un voltairien très conscient et très sérieux et profond, qui ne voulait pas que son fils soit influencé de quelque façon que ce soit, de façon à ce que je puisse choisir un jour. Ma mère était protestante, mais par fidélité, je pense, elle ne me l'a jamais dit à mon père, il n'a jamais été question de rien. Il y avait une Bible à la maison, puis je lisais de temps en temps, je n'y comprenais rien, et puis un jour s'est produit l'événement qui a modifié effectivement le cours de ma vie.
En tout cas, vous refusiez, Jacques Ellul, l'étiquette philosophe, mais je dois vous dire que vous êtes un philosophe et un sociologue très connu aux États-Unis. Ce matin, au cours d'une émission ici, Forum, à laquelle je participais, je disais que vous étiez plus connu à l'étranger que dans votre propre pays. Et je dois dire que si vous êtes connu aux États-Unis, très suivi au Japon, j'ai le souvenir d'une conférence à une université à Baya, où j'étais avec Georges Amado, où on étudiait par exemple sur votre système technicien, où on reprenait tous les mots que vous aviez su dire et toutes les provocations que vous aviez su faire. Avez-vous conscience de cette appartenance à un monde qui n'est peut-être pas le vôtre, qui n'est pas français?
Oui, j'ai tout à fait conscience. La plus grande partie du courrier que je reçois vient de tous les coins du monde, et j'ai surtout conscience d'une certaine, il ne faut pas en abuser, mais enfin marginalisation par rapport à ceux qui me sont les plus proches. C'est-à-dire, je suis plus connu en France dans le monde catholique que dans le monde protestant, et je suis plus connu hors de l'université que dans l'université. Je pense que c'est un phénomène assez simple, dans la mesure où on connaît quelqu'un personnellement, on ne voit pas très bien l'intérêt qu'il y aurait à lire ses livres ou à étudier sa pensée.
Oui, mais peut-être est-ce parce que vous avez été toujours en avant sur les idées, sur les mouvements. Vous êtes peut-être revenu un peu trop tôt, puis vous aimez bien cette marginalité. Comme Rob Grier, très connu aux États-Unis sur le ton littérature, ou Claude Sarrault, ou Roland Barthes, qui a été reconnu après sa mort, ou même Roger Caillois, qui sera très grand dans 50 ans.
Il sera très grand, certainement.
Oui.
Nous aimions beaucoup avec Roger Caillois. Au fond, je n'ai jamais cherché ni à plaire, ni à faire une carrière. Et ce qui est vrai, c'est que, si vous voulez, si j'ai été en avance, par rapport à la réflexion habituelle sur la société, c'est un peu à Marx que je le dois. J'avais pas mal travaillé Marx étant jeune, et la question centrale qui s'est posée à moi était la suivante: si Marx était dans notre société vers 1940-45, qu'est-ce qu'il étudierait? Je pense qu'il ne centrerait pas toute son étude sur l'accumulation du capital. Le fait majeur qu'il verrait, c'est la technique. Et alors, j'ai essayé de, non pas d'être l'équivalent de Marx, je n'en ai pas la prétention, mais de procéder à la même analyse de notre société qu'il a faite pour la société du milieu du 19e siècle. Ce qui vous situe tout de suite extraordinairement en avance par rapport aux méthodes, je dirais, traditionnelles de la sociologie pragmatique.
Vous pensez, Jacques Ellul, que votre ouvrage, Le système technicien, est l'un des ouvrages les plus importants de votre œuvre? Vous dénoncez une forme de progrès d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une occupation totale de l'homme, on s'occupe surtout de tout son environnement, mais pas le véritable.
Bien sûr, mais je ne dirais pas que c'est une œuvre pour moi plus capitale que le reste, étant donné que j'ai conçu, et ça complique un peu la vie, j'ai conçu mon œuvre vraiment comme un ensemble. Chaque livre s'engrainant sur le reste. Alors, le système technicien est venu à sa place dans l'application de l'analyse systémique à un phénomène que j'avais déjà étudié dans la technique ou l'enjeu du siècle.
Alors, depuis 30 ans, et cela à travers une trentaine de livres, même plus peut-être, vous avez poursuivi deux œuvres parallèles. Vos élèves n'aiment même pas que l'on dise vos disciples, et vous allez un peu partout dans le monde. C'est formidable d'ailleurs de voir quelqu'un qui est peut-être très peu connu ici à Bordeaux, qui est votre terre, et qui est vraiment très répandu ailleurs, mais enfin, ça stimule les lois de la nature. Alors, il y a l'œuvre de sociologie politique, d'abord, je crois que vous êtes penché là-dessus très fort, et puis il y a une œuvre théologique, et vous venez de l'avancer, parce que vous avez dit tout de suite, je suis protestant, et c'est presque une problématique religieuse.
Exactement. C'est une problématique religieuse de ce, au fond, je dirais, d'avoir été converti par la lecture d'un livre que l'on est amené à appeler parole de Dieu, mais qui n'est évidemment jamais une parole de Dieu, que nous sommes toujours appelés à réinterpréter. Autrement dit, qui n'est jamais, disons, une injonction directe d'une divinité transcendante, mais qui se situe sur le plan du langage, de la parole, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus fragile, de plus fluctuant. Et alors, un Dieu qui est parole, un Dieu qui demande que j'interprète pour que je sache de quoi il est question, ça me fait entrer effectivement dans une problématique.
Mais Jacques, comment se fait-il qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu, de la mort, alors que autrefois, c'était là des mots. Ouais. Parfois, vous savez, en plaisantant, on me dit, vous parlez toujours de Dieu, vous parlez de la mort. Je n'en parle jamais, mais tout le monde m'en parle. Depuis le début, presque les deux mots, parce que ce sont plus que des noms que des mots, viennent normalement à la conversation.
Oui, je pense que effectivement, c'est une des questions qui se pose aussi à moi. On assiste à un renouveau religieux extraordinairement impressionnant et qui me paraît absolument logique. C'est-à-dire que c'est pas possible pour l'homme de vivre dans un univers glacé comme le monde scientifique et le monde rationnel, le monde technique, ce n'est pas possible. On a vu en 68 l'explosion de l'irrationnel et ça me paraissait absolument normal, je dirais. Eh bien, maintenant, c'est la suite, on se précipite dans le religieux. Or, il ne faut pas croire que moi, j'en sois extrêmement satisfait. Parce que on se précipite dans le religieux pour toutes les mauvaises raisons que...
Tous les alibis,
et qu'au XIXe siècle, Marx ou Nietzsche ont eu parfaitement raison de dénoncer, ou Feuerbach. C'est du religieux pour éviter de voir le réel.
Vous avez refusé en son temps en mai 68
ah, pas bien du
vous
tout.
Recommandiez à vos élèves.
Ah, pas du tout. J'avais pas besoin de le recommander.
Mais vous auriez pu participer.
J'ai participé. J'étais à toutes les assemblées générales d'étudiants et c'était extraordinairement passionnant. Le moment et la question m'a été posée après par certains étudiants qui m'ont demandé pourquoi je les avais lâchés en cours de route. Et je les ai lâchés en cours de route quand j'ai pensé qu'ils faisaient fausse route, c'est-à-dire que j'ai analysé le phénomène d'après un certain nombre de critères que, par exemple, Lénine donnait pour l'analyse des révolutions, et je me suis rendu compte que on pouvait faire une révolution sectorielle universitaire, mais que ça ne pouvait pas déboucher sur une révolution globale. Et à partir du moment où les étudiants ont espéré renverser le général de Gaulle, etc., etc., alors là, c'était raté, de toute façon.
Et puis vous pensez, Jacques Ellul, que la révolution ne sert qu'à installer un ordre nouveau?
Alors, l'expérience des révolutions, pour moi je ne porte pas de jugement philosophique, l'expérience des révolutions jusqu'à présent montre qu'on aboutit à un ordre nouveau qui ou bien reproduit l'ancien ou bien est plus rigide que l'ancien. Ça ne me paraissait pas la bonne méthode. Par contre, alors, on aurait réussi à obtenir une liberté entière, une autonomie entière des universités, je dirais, secteur de pensée libre, d'échange, de pensée critique, etc. Là, je suis sûr qu'il y avait un levier pour modifier le développement de notre société.
Alors aujourd'hui, Jacques Ellul, tout paraît permis. C'est-à-dire que l'on peut faire vraiment le pire. C'est-à-dire que c'est Bologne, c'est Munich, ce sont tous les attentats antisémites, et puis on va dire anti-tout. Et puis de l'autre côté, il y a cette forme de guerre qui s'installe quelque part. Je pense à l'Iran et à l'Irak. Alors, où est la vérité dans tout cela? Est-ce seulement une mauvaise trajectoire ou est-ce le commencement de quelque chose?
Je pense que nous sommes en présence, en fin de lieu, d'un conflit qui est inéluctable entre la conviction que l'on peut structurer complètement la société, l'économie et même le comportement humain, parce que enfin, nous sommes à deux doigts de cette recherche-là, et d'un autre côté, un refus viscéral. Alors, vous comprenez, quand moi je réalise parfois ces espèces de d'explosions sauvages que l'on rencontre, qui aboutissent à ces drames horribles et ces attentats, mais c'est vrai que quand on se sent coincé de toutes parts et qu'il n'y a plus de recours, qu'on ne peut plus compter ni sur une voie politique normale, ni sur un jeu normal d'une administration, eh bien, il n'y a qu'une issue pour un jeune, par exemple, on fait tout craquer. Et on fait l'acte idiot, absurde, on tue parce que peut-être que c'est nouveau.
Alors, c'est une désespérance, mais il me semblait la pardonner, cette désespérance, lui trouver des excuses.
Ce n'est pas des excuses, c'est une explication, et puis je dois dire que j'ai été tellement au contact lorsque je travaillais dans la prévention, j'étais tellement au contact avec des jeunes que l'on appelait les marginaux, marginalisés, etc., etc., qui étaient en réalité fondamentalement tous malheureux. Ils n'étaient pas mauvais, ils étaient malheureux. Et moi, je suis convaincu que les auteurs d'attentats, avant tout, ils sont malheureux.
Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait dans votre œuvre deux parties. Il y avait une sociologie politique, il y avait une partie théologique. Et je sais que très bientôt, vous allez publier un ouvrage, je crois au mois de novembre, L'image et la parole. Et je crois que cette fois-ci, vous êtes au point d'intersection de ces deux voies. Et cette fois-ci, peut-être, vous irez un peu plus loin.
C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'ici, j'écrivais mon œuvre sur les deux registres de telle façon que le livre théologique ne soit pas une réponse pure et simple au livre d'analyse politique, mais permette au lecteur de procéder lui-même à sa démarche intellectuel. Autrement dit, si vous voulez, j'écris d'un côté l'illusion politique et j'écris de l'autre côté politique de Dieu, politique des hommes. Deux livres qui sont exactement en conjonction l'un avec l'autre. La difficulté, l'effort assez prétentieux que je demandais au lecteur, c'est qu'il lise les deux. Et que, ayant les deux éléments de la chaîne en main, qu'il progresse lui-même. Parce que ce que je refuse, en tout cas, et j'y faisais allusion tout à l'heure en disant que je ne veux pas avoir de disciples, c'est penser à la place des autres. Je veux donner aux gens des éléments pour qu'ils pensent, ou pour qu'ils construisent leur vie, ou pour qu'ils prennent leurs décisions, qu'ils fassent leurs choix, mais absolument pas me substituer et leur dire « la solution est là, alors je ne le ferai jamais ».
Jacques Ellul venait de dire politique des dieux, ou plutôt politique de Dieu, ou politique des hommes. Alors là, il y a quand même une forme d'ambiguïté. C'est vrai que les gens s'adressent à Dieu, bon, même dans les chapelles, dans les synagogues, dans les temples, et ils prient quelque chose ou quelqu'un qu'ils ne voient pas. En revanche, lorsqu'il s'agit des hommes, ils sont moins assidus aux grandes cérémonies. Alors, est-ce encore Dieu la chance pour oublier que vraiment l'homme est tout à côté?
S'il rencontre le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu qui renvoie à l'homme, puisqu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Donc, on ne peut absolument pas faire la dissociation. Et c'est pourquoi, très exactement, je me méfie des religions qui sont des religions de l'abstrait ou d'un dieu impersonnel ou d'un esprit. Et je me méfie beaucoup des spiritualismes. Donc, là, c'est impossible de dissocier le concret du vécu humain et puis la foi dans ce Dieu-là. Et c'est pourquoi j'ai la faiblesse de croire que le christianisme apporte quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs.
Et vous pouvez penser à la vérité ou à la nécessité des sectes, par exemple, c'est-à-dire de gens qui se retrouvent autour d'une idée, ou même autour d'un fantasme, peut-être, autour de Neyer qu'il souhaite.
Oui, ah ben c'est ça. Les sectes, ça correspond toujours à ce besoin de se retrouver et d'être approuvé par les autres. Par conséquent, ça, je les comprends parfaitement. Je sais que malheureusement, et nous en avons dans le protestantisme suffisamment de sectes pour le savoir, malheureusement, il y a toujours un moment où la secte ou bien devient parfaitement autoritaire et fermée, ou bien se dissout et n'apporte pas, en définitive, une réponse à l'attente que l'on y mettait.
Pourquoi n'êtes-vous pas catholique ?
Eh bien, au fond, lorsque j'ai eu à choisir, parce que j'avais aucun choix délibéré fait d'avance, l'important pour moi, c'était ce que j'avais entendu dans la Bible, et disons que vers 1933-34, le catholicisme me paraissait relativement moins proche de la Bible que ce que je lisais des auteurs protestants. Depuis, actuellement, ça me gênerait beaucoup, beaucoup moins.
Vous avez fait partie, vous avez même été membre, je crois, du Conseil national de l'Église réformée de France, et vous avez quitté le Conseil, peut-être pour prendre toute votre liberté, pour affirmer une forme d'indépendance.
Non, j'ai quitté ce Conseil pour obéir à une règle que je m'étais fixée quand j'étais assez jeune et que je commençais à pénétrer justement dans les conseils, que je voyais des conseils d'administration, d'œuvres, etc., que je voyais encombrés par des vieillards.
Et quel âge ?
Maintenant, 68 ans. Alors, je m'étais dit, quand tu auras 60 ans, tu quitteras tous les conseils auxquels tu appartiens pour ne pas encombrer et occuper des sièges où tu n'aurais plus rien à faire. Tout simplement. Alors, même si on n'est pas complètement usé, c'est vrai qu'il faut faire une place à une génération qui suit.
Vous pensez que cela devrait être valable dans d'autres organisations?
Ah oui.
Par exemple, aux ministres, aux députés, aux sénateurs, jusqu'à quel âge ils pourraient aller?
Ah oui, partout. Moi, je crois qu'il faudrait, de grandes liquidations en fonction des âges, parce que, je constate maintenant, moi qui ai passé ma vie à me tenir au courant de ce qui s'écrivait, de ce qui se filmait, etc. Et je devais me tenir au courant à cause de mes étudiants, parce que je ne pouvais pas vieillir, j'avais à être leur répondant surtout, et pas seulement en histoire du droit. J'ai beaucoup de mal, depuis 7 ou 8 ans, à lire ce qui s'écrit, à m'adapter à un nouveau langage, à adopter de nouveaux modes d'interprétation du réel. Je le fais, mais je vois la difficulté que j'ai à le faire, moi qui ai fait ça toute ma vie. Alors, je me dis, bon, si moi j'en suis là, je pense que quelqu'un qui n'a pas fait cet exercice tout le temps, ça doit lui être encore plus difficile. Et il tient, autrement dit, un discours qui date d'il y a 30 ans ou 40 ans. Nous avons interprété la réalité politique en 1944, nous nous sommes retrouvés avec de vieux amis de cette époque il n'y a pas longtemps, et bien, spontanément, nous repensons la réalité politique actuelle avec nos visions de 44. Ça n'a plus rien à faire, bien entendu.
Et êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faudrait recommencer à zéro aux différents âges de la vie, c'est-à-dire à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, parce que vous dites à 68 ans, j'ai décidé, bon, de quitter, de laisser la place aux jeunes, mais vous pouvez commencer.
Oui, alors mais je pense de toute façon continuer l'œuvre écrite, hein, ça c'est une chose, et puis d'autre part reprendre un certain service, mais pas le même, c'est-à-dire des secteurs comme la prévention spécialisée ou la défense de la côte aquitaine sur le plan écologique, etc., non pas comme administrateur ou personnel actif, mais un peu comme conseiller qui, ayant expérimenté un certain nombre de choses, peut éviter que l'on fasse un certain nombre d'erreurs.
Pour quelle raison vous, le Maltais, en fait d'origine, pour quelle raison vous sentez-vous aquitain, bordelais?
Parce que, je disais tout à l'heure, parce que j'y avais eu mes amis et je suis un homme d'amitié. Alors ça, l'amitié a joué un rôle extraordinaire dans ma vie. C'est un de mes meilleurs amis qui a déclenché, je peux dire, toute ma vie intellectuelle. C'est un de mes amis qui m'a fait découvrir la Bible. C'est, pour moi, tous les grands événements de ma vie sont liés à des amis. Alors, donc, il y a ça, il y a cette existence-là. Et puis, il y a le fait que c'est ici que, progressivement, j'ai découvert le monde de la nature, que j'ai vécu dans les Landes, au contact avec la forêt, que j'ai vécu sur les lacs des Landes, et ça, alors, on change pas de pays.
Alors, j'en reviens à ce livre que nous ne connaissons pas, puisqu'il n'est pas encore en librairie, L'image et la parole. Sur le plan politique, c'est la critique que vous avez toujours poursuivie de la société technicienne, et cette critique, vous l'avez commencée il y a maintenant 25 ans. Et puis, c'est aussi peut-être le rappel de quelque chose que vous aviez inventé, et ce que vous avez inventé, c'est une sensibilité écologique. Parce que maintenant, on mêle un peu les mots à la politique. C'est-à-dire, on dit de la même manière giscardien, communiste, écologiste, socialiste.
Oui, alors, effectivement, nous étions quelques-uns à penser, si vous voulez, qu'il fallait faire... Il y avait notre passion pour le monde naturel. Et la dénaturation de la nature nous paraissait inacceptable. Mais il y avait aussi un autre projet politique. Nous connaissions bien les orientations, par exemple, de l'anarcho-syndicalisme de 1890-1900. Ils avaient eu le mérite de poser les problèmes de la société en marge du rituel politique. Et pourtant, la démocratie à cette époque n'était pas très usée. Alors, il nous semblait important de poser, nous aussi, les problèmes de la société avec un autre angle d'attaque l'angle d'attaque des partis politiques traditionnels qui ont une analyse ancestrale de notre société. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Il y a un tel désaccord entre la réalité sociale et le discours politique. Que ça peut évidemment, ça ne peut avoir aucune espèce d'impact et de portée. Alors, l'écologie ou la réflexion sur le conflit entre technique et nature était un moyen. De même que tout le travail auprès de la jeunesse dite inadaptée, c'était un moyen pour attaquer par un autre angle le problème de notre société. Bon, actuellement. Le travail auprès des jeunes inadaptés récupérés dans la prévention, tout le monde fait de la prévention, le travail écologique est récupéré par les partis politiques, eh bien, alors il y a deux voies, ou bien nous allons essayer d'affirmer que tout ça c'est faux et on recommence autre chose, ou bien on trouve un autre angle d'attaque. Mais ça me paraît moins difficile maintenant.
Vous avez pris un très beau titre, L'image et la parole, et l'idée la plus simple de votre livre peut être contenue dans une phrase, et cela va vous paraître peut-être terriblement naïf. L'image, dites-vous, a des conséquences tout à fait destructrices par rapport à la parole. Vous le pensez vraiment? Parce que cela met en cause alors vraiment tout ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire c'est le cinéma, c'est la télévision, l'image qui tue la parole.
Oui, dans la mesure où, pour moi...
Il réhabilite la radio, d'ailleurs.
Exactement. D'ailleurs, il y a bien des études qui sont faites qui montrent à quel point la parole, la radio, a une résonance de mystère, de recherche à l'intérieur de l'être humain que l'image télévisée n'a pas. Pour moi, en schématisant beaucoup, je dirais que le regard nous permet de prendre contact avec le réel, avec tout le monde de la réalité. Et que la parole est forcément symbolique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à moi, parlons peut-être aussi quelquefois du réel, mais avec un autre ensemble de connotations et que j'appellerais assez bien la vérité. La parole est relative à la vérité. Et la vue, l'image est relative au réel. Alors, quand le réel englobe ou écrase la vérité, que la vérité ne peut plus s'exprimer, c'est là qu'elle devient néfaste. Et c'est pourquoi, dans notre société, je suis inquiet de l'envahissement des images. Je ne trouve pas que ce soit un progrès que les livres d'école soient faits avec des images. Je me trouve en présence d'étudiants qui, tout simplement, ne savent pas exprimer leurs pensées par un discours continu. assez impressionnants, même ceux devraient être habitués, je pense, à ceux qui ont suivi le marxisme et qui devraient être habitués à un discours, ils sont même capables de tenir un raisonnement cohérent. Ils ponctuent tout le temps avec des bons et bien, etc. Ils peuvent pas parler d'une façon raisonnable d'une part et d'une façon différente d'une appréhension du réel, pur et simple.
Mais pourtant, on peut traficoter la parole comme on traficote les images.
Bien entendu, mais ce qui est relatif à la vérité est en même temps relatif au mensonge.
Alors le mensonge est-ce une réalité ?
Non, pour moi, il y a le réel et l'irréel, et il y a la vérité et le mensonge. Tout marche par couple. La parole peut être une parole de vérité, mais aussi bien une parole de mensonge. Elle est relative à la vérité. On ne ment que par rapport à la vérité.
Ça, vous avez dit déjà, Jacques Ellul, un certain nombre de choses. Vous avez parlé de mai 68, vous avez abordé la société industrielle, vous venez de parler de l'écologie, tout cela, vous aviez essayé de le dire il y a très 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 longtemps. Or, tout cela a été entendu ailleurs. Alors, je prétends, j'affirme qu'il y a un cas Ellul en France. Pourquoi n'avez-vous pas été entendu dans votre propre pays? Alors que nous avons récupéré Galbraith, par exemple.
Oui, justement, nous avons récupéré Galbraith, mais dans la mesure où
il y avait un mauvais mot, hein. Nous avons été heureux de le recevoir.
Mais, je crois qu'il y a un handicap en France qui est presque insurmontable. Vous avez insisté sur le fait que je suis bordelais, que je me suis attaché à Bordeaux, que je n'en ai jamais bougé. Je suis né à Bordeaux et que c'est mon lieu, que je n'ai jamais voulu devenir parisien et faire carrière. Je n'ai jamais cherché les honneurs. Alors, je n'existe pas dans le milieu, où on pense à Paris. Et j'ai eu un journaliste l'année dernière qui est venu à Bordeaux pour m'interviewer et qui m'a dit, enfin, est-ce qu'on peut être un intellectuel en dehors de Paris?
Il m'a dit ça.
Oui, il m'a dit ça. C'est surprenant, pas? Alors, mais je comprenais très bien. Il y a tout un vocabulaire qui se fabrique à Paris. Je le connais, je ne le parle pas, je ne l'emploie pas. Alors, déjà, ça paraît pas très sérieux quand on n'emploie pas le vocabulaire de Los Gattari, Foucault, etc. Je peux dire les mêmes choses sans employer. Et ce sont des éléments qui pèsent très lourd dans la diffusion d'un livre ou non.
Donc vous jugez très sévèrement les chapelles intellectuelles parisiennes, c'est-à-dire vous ne prenez pas tout cela très au sérieux. Ils vivent vraiment...
Ce qui moi me navre, c'est qu'ils disent des choses qui sont très importantes, souvent, mais ils les disent de telle façon que c'est, biaisé par le vocabulaire. C'est-à-dire que s'ils le disaient droitement et simplement, on se dirait c'est beaucoup trop simpliste. Et pour que ça soit pris au sérieux, on met toute la sauce. Que je n'ai jamais voulu mettre.
Oui, soyez très franc, Jacques Ellul, vous êtes un peu agacé par tout cela. Vous auriez bien voulu être reconnu dans votre propre pays, même par ceux que vous semblez juger sévèrement. Vous auriez bien voulu appartenir à ces chapelles.
Bien sûr. Bien sûr, j'aurais préféré être reconnu, et non pas pour devenir un pontife ou une autorité, parce que il me semblait qu'à un moment, je disais un certain nombre de choses qui auraient peut-être pu infléchir le cours des choses, et ça n'a pas mordu, alors ça n'a pas eu d'effet. En 1950, quand j'ai présenté mon premier bouquin sur la technique ou l'enjeu du siècle, qui était l'ouverture de tout l'ensemble, toute une série d'éditeurs parisiens m'ont dit la technique, qu'est-ce que c'est que ça, mais qui voulez-vous que ça intéresse qu'on parle de la technique? Bon, ben, je crois que si on l'avait vraiment lu à cette époque, je peux raconter même une petite anecdote amusante. J'ai eu affaire à un Américain, qui est venu d'ailleurs à Bordeaux, etc., et qui m'a dit, vous savez, votre livre sur la technique, le premier, extraordinaire. J'ai appliqué tout ce que vous avez dit, j'ai fait une fortune.
c'est la finalité.
Voilà. Alors,
ça, n'avait pas prévu ça.
Je n'avais pas voulu. C'était absolument imprévu. Mais ça voulait dire que j'avais rendu compte de la réalité du monde dans lequel il se trouvait.
Jacques Ellul, pour bien vous connaître, il faudrait dire quel livre de vous. donner trois clés, par exemple, ou quatre clés.
Trois clés, alors, certainement sans ce milieu, c'est-à-dire une théologie de la grande ville. En un mot, je pense qu'il y a dans la Bible, tout un parcours biblique de la ville. Et c'est le livre qui, pour moi, est probablement le livre pivot, dans la mesure où Dieu crée l'homme dans un jardin, hein, l'Éden, et à la fin, ce qui nous est annoncé, c'est non pas la recréation d'un jardin, mais c'est une ville, la Jérusalem céleste. Bon. Autrement dit, c'est dans l'histoire des religions, c'est une des rares religions où la fin n'est pas la même chose que le commencement. Ce qui veut dire que l'histoire humaine est prise en compte. Et par conséquent, quand on se rappelle que la ville, bibliquement, c'est le lieu, la première ville, bibliquement, est fondée par Caïn, n'est-ce pas ? C'est le lieu qui est contre Dieu. C'est le lieu d'où Dieu est exclu. Et nous voyons que Dieu reprend progressivement cette œuvre que l'homme veut se faire. L'homme veut se faire son monde. Hein. Et le nom de cette première ville, bibliquement, c'est Hénoch, qui veut dire commencement. Donc l'homme pose son commencement. Dieu, lui, il a posé son commencement autrefois. Et puis maintenant, l'homme pose son commencement et il fait son histoire. Et Dieu, au lieu d'annuler ça, reprend, et je dirais exauce, l'histoire de l'homme. Et avec cette formule tout à fait stupéfiante et admirable que nous donne l'Apocalypse, et toutes les nations de la terre y apporteront leur gloire. Autrement dit, ce que nous faisons au cours de notre histoire n'est pas annulé, mais se trouve récapitulé dans le monde que Dieu nous donnera. C'est pas du tout le paradis que l'on imagine avec des petits anges bleus et roses, etc., etc. C'est pas ça du tout. C'est une ville, mais une ville qui est enfin parfaite. Alors, pour moi, c'est cette explication que j'ai trouvée dans la Bible me paraît situer tout le reste, parce que cette technique contre laquelle je me bats, mais c'est en même temps une œuvre de l'homme. Et par conséquent, dans la mesure où elle est parfaite, elle trouvera aussi sa place. Elle trouvera aussi sa place.
Donc, premier livre important. Oui. Le deuxième. La deuxième clé.
La deuxième clé, c'est l'espérance. Le livre que j'appelle l'espérance oubliée. Dans la mesure où il me semble que dans le monde théologique, on a toujours oublié l'espérance. On a beaucoup parlé toujours de la foi et puis de l'amour, et jamais de l'espérance, alors que j'ai l'impression que dans le monde où nous vivons actuellement, ce dont l'homme moderne a besoin, c'est d'abord d'espérance. Je rencontre en permanence des gens qui sont angoissés et désespérés. Et la Bible nous donne pas une espérance, je dirais, facile, c'est-à-dire l'espérance, c'est pas l'espoir, c'est pas le tonneau des Danaïdes, n'est pas mes sœurs.
Non, l'espérance est une provocation.
Exactement. L'espérance, c'est une provocation et qui consiste en réalité à nous dire la situation est désespérée et c'est dans cette situation désespérée que nous avons à maintenir l'espérance.
Je suis persuadé que c'est bien à cause de ce livre que lorsqu'on interroge les syndicalistes de Pologne, de Tchécoslovaquie, ils répondent qu'ils lisent votre œuvre. Mm-hmm. C'est peut-être justement à cause de l'espérance.
Oui, ça
vous demandez sur quel livre, sur quel point de votre œuvre.
Exactement. Je sais que c'est un livre dont des fragments importants ont été diffusés effectivement en Pologne.
Et ces derniers temps, hein.
Oui.
Vous êtes au courant?
Oui.
À parfait.
Et effectivement, pour moi, quand une situation apparaît complètement fermée, bloquée, c'est là que l'espérance doit avoir lieu. Quand ça marche, on n'a pas besoin de l'espérance.
Vous ne m'avez pas parlé encore du système technicien et du non-sens.
Oui, alors là, n'est-ce pas, ça continue à être l'analyse de la société dans laquelle nous sommes. Alors ce sont des livres qui, pour moi, doivent être essentiellement provocateurs à une prise de conscience. C'est tout le temps ce que j'essaie de faire. Si l'art moderne me paraît difficile à accepter, c'est parce qu'il ne joue plus le rôle que l'on a toujours attribué, en quelque sorte, à l'art, ce rôle qui consiste en définitive à donner à l'homme une certaine raison de vivre et un sens à ce qu'il vit et à lui fournir des symboles. Or, l'art, dans la société où nous sommes, se subordonne aux moyens techniques de plus en plus et se trouve prisonnier. Et par conséquent, il n'y a plus de sens. Et poussant jusqu'à l'extrême, n'est-ce pas, il ne doit plus y avoir de sens. Nous avons entendu la formule assez souvent dans les années 70-75. Alors, c'est ça, c'est un livre, si vous voulez, provocateur pour obliger l'artiste à reprendre conscience et qu'il n'a pas à se subordonner aux moyens techniciens et il n'a pas à répéter les lieux communs politiques. Ça ne sert à rien que l'artiste se mette à faire de la propagande politique. Il a à réfléchir sur le sens du monde dans lequel il se trouve et, je dirais, une fois de plus, reprenant une chose que j'ai déjà dite, aider l'homme à vivre dans ce monde-là.
Je veux savoir, Jacques-Élie, comment vous regardez la beauté? Est-ce un problème seulement d'éthique ou faites-vous passer la pensée dans le courant?
Oui, pour moi, il ne peut pas y avoir de beauté purement formelle. Hein. Il ne peut pas y avoir de beauté...
C'est ce que disait Baudelaire, belle et immortelle.
Oui, et bien...
Déesse et immortelle, même.
Exactement, il y a... la beauté ne peut pas être, pour moi, détachée de sa signification. Enfin, vraiment, quand je vois... C'est le plus direct. Il peut y avoir une femme admirablement belle. Si elle a l'air idiote, je ne peux pas la considérer comme belle. Ça. Autrement dit, il y a une espèce d'élément intérieur porteur de sens qui, en même temps, évoque quelque chose de central en moi dans le domaine intellectuel, car je suis aussi un visuel et je suis extraordinairement sensible à la beauté visuelle, mais à condition qu'il y ait cette provocation à penser.
Mais dans cette dualité que vous imposez, beauté, intelligence, il y a quand même comme une forme de racisme. Hein. Inavoué peut-être, mais...
Je vois pas en quoi il y a racine, pour moi.
Sinon, je pose la question, oui. Je ne sais pas.
Non, j'ai pas tellement l'impression d'être raciste. Simplement, ça m'intéresse pas. Je peux pas m'intéresser à tout. Quelqu'un qui est une pure mécanique intellectuelle m'intéresse pas beaucoup. Je dis que je suis un homme d'amitié, j'ai besoin d'une relation humaine. Une relation humaine implique aussi une relation physique, c'est-à-dire un plaisir à être avec l'autre physiquement et un plaisir à penser avec l'autre. Une relation qui est extrêmement complexe.
Je veux dire que vous poussez très loin vos préoccupations, Jacques-Élie, parce que tout à l'heure nous parlions de l'image et la parole. C'est un livre qui va être publié bientôt. Et puis, il y a un autre livre qui va également sortir. Bientôt, c'est la foi au prix du doute. Alors, n'est-il pas dangereux d'abord de lancer sur le marché deux produits tellement différents? Et n'est-il pas dangereux également d'éclater de tous les côtés de même coup? Parce que si je regarde par exemple la foi au prix du doute, je m'aperçois que vous y parlez d'énormément de choses. Vous parlez surtout de ceux qui ont écrit, qui ont proclamé les choses, qui, surtout à propos de la foi, à propos de la croyance, à propos des conversions. Je serais tenté de dire que pour prendre la foi au sérieux, il faudrait commencer peut-être par la critiquer.
Oui,
c'est ce que vous faites.
Oui, exactement.
Vous êtes donc un bon croyant puisque vous êtes lucide.
Vous venez de dire que je suis un bon croyant?
Oui.
Ah non, je ne suis pas du tout un bon croyant. Alors, pour moi, la parole centrale concernant la foi et que je reprends chaque jour, c'est la parole qui est adressée à Jésus, je crois, vient au secours de mon incrédulité. Si je prends la foi au sérieux, je suis obligé d'être dans l'orientation de Kierkegaard, ou bien c'est la foi d'Abraham, et il faut aller jusque-là, mais en deçà de la foi d'Abraham, ce n'est pas la foi. Bon. Or, je n'ai pas la foi d'Abraham. Je suis un pauvre malheureux qui se débat avec une vérité qui le dépasse, que je suis incapable d'assumer pleinement, et je mesure plus j'avance la distance qu'il y a entre ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, et puis celui en qui je crois. Mais par conséquent, je suis pas du tout un croyant satisfait de lui-même.
Enfin, l'époque est tout de même bizarre ou étonnante ou exceptionnelle. Que de proclamations, que de conversions, que de grands appels. Alors, je me demande si vous êtes d'accord avec Malraux lorsqu'il dit que le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas.
Ben, c'est-à-dire que
le prochain, hein.
Oui, le prochain.
Il y a plus de
vingtaine
d'années, là.
Il s'agit, hélas, de 100 ans. Je suis malheureusement, moi aussi, tenté d'y croire que ce sera religieux, mais religieux, il ne faut pas oublier que l'hitlérisme était religieux, le stalinisme était religieux, le maoïsme était religieux.
C'est tout résultat d'une grande obéissance.
Et tout résultat d'une grande obéissance. Et c'est cela que je redoute. Cette croissance, c'est pour ça que je me défie du développement des religions. Et il n'y a rien de plus redoutable, parce que quand pouvoir et religion se conjuguent, alors là, l'homme est totalement pris. Il n'y a plus de critique, il n'y a plus de distance. Alors que, et ça correspond au sentiment religieux spontané, et c'est le sentiment religieux spontané que je critique dans La foi au prix du doute, lorsque l'on devient conscient, on ne peut que douter. Et la foi implique toujours, à l'intérieur d'elle-même, une remise en question. Une remise en question, non pas de la vérité révélée, c'est pas ça le problème, mais une remise en question de soi, une remise en question de la façon dont j'ai compris, dont j'ai interprété, dont mon Église a compris et interprété. Je suis obligé de douter de ce que nous avons dit il y a 10 ans, et puis de ce que nous disons encore maintenant. Et ça, c'est la condition même pour que la foi soit vivante.
Mais Jacques, comment entendez-vous les bruits aujourd'hui qui sont apportés par l'islam? Parce qu'on parle des protestants, on parle des catholiques, on parle des juifs, mais... Là, c'est un bruit.
Oui, l'islam est très inquiétant parce que il peut répondre à un certain nombre de besoins purement religieux. Si l'islam, redevient l'islam de ses prophètes et de ses mystiques, alors, j'ai l'impression que le dialogue peut être extrêmement fructueux entre l'Occident et l'islam. Si l'islam devient une religion politique, c'est-à-dire si dans cet équilibre extrêmement fragile qu'il y a à l'intérieur de l'islam entre le djihad, n'est-ce pas,
le
djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, dans l'islam, est un fait complexe. Nous ne voulons avoir qu'un aspect, c'est-à-dire la guerre contre l'infidèle. Or, le djihad, la guerre sainte, c'est la guerre contre soi, d'abord. Le musulman sérieux mène la guerre contre ses propres passions, contre ses propres tendances, contre etc. Alors, autrement dit, nous sommes en présence d'un monde spirituel qui a un impact sur le politique et l'extérieur, mais qui implique une vie intérieure extrêmement profonde. Alors, si l'islam bascule sur la conjugaison entre l'islam politique et la politique du monde moderne, ça peut être évidemment assez catastrophique.
Mais j'ai l'impression, Jacques Ellul, qu'il aura suffi d'un seul titre pour vous mettre en scène. C'est-à-dire, le titre de ce dernier ouvrage apparaît, La foi au prix du doute. Lorsqu'on a écrit ce titre, on a l'impression déjà de s'être totalement présenté à quelqu'un.
Oui, c'est vrai que c'est un livre, mais tous mes livres sont des livres très très objectifs d'une part et qui expriment toujours le plus profond de ce que je vis. Enfin, en réalité, j'ai horreur d'étaler ma conversion, j'ai horreur d'étaler mes sentiments, etc. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de littérature ou publié de poèmes.
Jamais de roman non plus.
Comment ?
Jamais de roman ?
Jamais de roman. Et
manque d'imagination ?
Non, pas manque d'imagination, mais je n'aurais pu parler que de moi. Et je ne veux pas parler de moi.
Pourquoi ? Parce que vous m'échouez de vous ?
Parce que je ne suis pas très intéressant. Parce que je ne vois pas pourquoi ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait est peut-être tellement tellement intéressant. Alors, j'ai tout.
Mais vous parlez de vous en parlant de tous les autres, même en critiquant comme vous le faites le christianisme.
Oui, dans la mesure où je suis un homme quelconque,
Je vis comme un homme quelconque. Disons que j'ai la seule différence, j'ai une bonne mécanique intellectuelle qui est capable de prendre la distance et d'interpréter. Mais en dehors de ça, je tiens absolument à être entendu par n'importe qui et au fond au niveau de quiconque. La foi au prix du doute, oui, mais quand ça débute par ce dialogue entre monos et una, c'est-à-dire entre ma raison et mon sentiment, c'est objectivé. Ce n'est pas moi qui...
Je voudrais savoir, Jacques Ellul, si vous préférez la sensibilité à l'intelligence.
Je n'ai pas jamais pu séparer les deux. C'est-à-dire que je n'ai jamais réfléchi sur des idées. C'est pour ça que je reviens à... Je ne suis pas philosophe. Je ne sais pas faire fonctionner des idées. Quand on commence à se situer sur un terrain abstrait, je suis complètement perdu.
Puis vous n'aimez pas tellement qu'on mélange les choses, parce qu'alors là, vous devenez tout à fait querelleur, vous perdez toute patience quand, par exemple, vous voyez un chrétien frayer avec le marxisme. Alors là, ça vous révolte, c'est ça, alors là. Vous feriez presque la guerre pour ça.
Oui, dans la mesure où, quand on pense quelque chose, il faut que ça soit bien pensé. Mélanger le christianisme et le marxisme, je demande que l'on sache exactement ce que l'on fait, je demande quelle théologie on a, je demande quelle interprétation de l'écriture on a, et je demande quelle lecture de Marx on a. Quand on a fait ce cheminement, alors que l'on en parle. Mais ce qui m'irrite, c'est effectivement cette facilité, vous comprenez, bon, depuis 40 ans, je me débats entre les deux et j'ai jamais pu trouver de réponse. Alors, quand je vois les mélanges extrêmement simplistes que l'on effectue, là, je peux pas être d'accord.
Vous pensez que la responsabilité des intellectuels est très grande?
Très grande. Très grande et autant je... Et c'est arrivé au moment de la libération, autant je... Je suis prêt à tout accepter d'un homme simple, de l'homme du peuple qui a été trompé. Autant je pardonne mal et quand vous dites que je suis querelleur, je suis coléreux et je suis vraiment très polémiste à l'égard de l'intellectuel, parce que l'intellectuel n'a pas le droit de faire tromper.
Nous sommes dans cette dernière période du XXe siècle, nous avons même passé le cap sur les 20 dernières années. Pourquoi et en quoi êtes-vous écœuré? Et plus précisément, je dirais, par l'Occident.
Eh bien, je suis écœuré par la trahison de l'Occident à l'égard des valeurs qu'il a affirmées. Ça. Quand l'Occident a mis au monde la liberté, c'est quand même vrai, c'est nous qui l'avons inventé, c'est nous qui l'avons lancé dans le monde, et que nous la trahissons comme nous la trahissons, ça, je l'accepte, et la comédie que nous jouons à l'égard du reste du monde, la comédie de la bonne foi, et la comédie du secours à apporter au reste du monde, c'est ça que je ne peux pas supporter. Mais d'un autre côté, je suis beaucoup moins désespéré qu'il y a une quinzaine d'années. Je vois apparaître un effort de lucidité extraordinaire chez les intellectuels, chez les scientifiques, comme je ne l'espérais plus. Et puis je vois apparaître chez les jeunes ce qu'ils appellent un souci de l'authenticité. Les adultes disent ce qu'ils veulent dire quand ils racontent ça, être ce que l'on est. Bon, eh ben, ils sont très très exigeants. Et alors moi, en présence d'une nouvelle génération qui est exigeante comme ça, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont changer.
À votre avis, la perte du sens caractérise le monde de l'industrie, de l'argent, vous dites même de l'utilitaire, et on ne peut pas rier, vous avez bien raison, on ne peut pas rier l'homme au seul bénéfice de la technique et de l'objet. Donc vous revenez d'une manière complète à l'homme. Vive l'homme, je serais tenté de dire, non?
Oui, vive l'homme, mais je me méfie tout le temps de cet homme qui a constamment bluffé et cherche toutes les portes de sortie. C'est pour ça que je suis très très, dans mes derniers livres, j'essaye d'obliger l'homme à prendre parti, parce que si c'est vrai que nous sommes enfermés dans le monde technicien, seul un certain nombre de décisions décisions de l'homme, mais de décisions motivées. Et alors, quelle va être la motivation qui va permettre à l'homme de prendre ses décisions? C'est ça mon problème.
Une phrase que j'ai inscrite, car elle me paraît importante, je ne sais pas si elle est de vous, elle vous est en tout cas appliquée. Vous auriez dit, les gauchistes sont les hommes religieux de notre époque.
Oui, je l'ai dit.
Ah, vous l'avez dit? Alors, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que ils ont réintégré dans un monde trop rationnel une impulsion qui ouvre de nouveau une possibilité de nouveauté.
Vous voyez, nous sommes arrivés en fin de parcours. J'aurais bien aimé avec Élule poursuivre longtemps encore. Je ne vous ai même pas parlé d'Alice Renier-Seyté, qui est le ministre des universités. Je veux dire que là, alors, vous avez dit des choses qui étaient des choses définitives, hein. Vous préférez d'ailleurs, vous voudriez la chasser, et d'une certaine manière, vous souhaitez une grève illimitée. Une grève générale illimitée. Vous, le professeur, vous, le mandarin, vous demandez, vous imposez presque un nouveau mai 68, qui se passera en 80.
Oui, je souhaiterais un nouveau mai 68, parce que je pense que c'est à ce prix que l'on risque d'avoir une université comme celle à laquelle je faisais allusion, c'est-à-dire qu'il soit de nouveau innovatrice, initiatrice, et pas seulement une mécanique à donner des diplômes.
Et vous priez quand même pour la sagesse.
Mais je crois que la sagesse implique souvent la révolte.
Merci Jacques Ellul. Je rappelle que nous étions à Bordeaux. Nous avons été, Jacques Ellul et moi, accueillis par nos amis de FR3. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous à demain. Demain, ce sera un autre horizon, Jacques Ellul. Demain, nous irons du côté de la Comédie Française, je serai un comédien. Je recevrai Jean Le Poulain. Vous aimez le théâtre, le cinéma?
Beaucoup.
C'est encore un autre spectacle, mais celui-là, il est affiché.
Oui.
Merci Jacques Ellul.